Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel Pongo Masimango.
Madame, Messieurs, bonjour. Entrée en vigueur dans ce cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23, l'Angola propose que cela commence le mercredi prochain, le 18 février, proposition qui attend l'approbation des deux parties en conflit. C'est ce qui ressort d'une rencontre lundi à Luanda entre Lorenzo Nasigbe, Tshisekedi et Obasanjo. Le ministre du Commerce extérieur et le secrétaire général de la SLICAF ont échangé hier à Addis Abeba sur les contours de la mise en œuvre de cette zone de libre-échange continentale africaine, ses avantages ainsi que ce que les pays membres devraient mener comme action pour sa concrétisation sur terrain. C'est en marge du 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui commence demain. Vous suivez les explications de Julien Paloukou. La Ligue nationale de football, l'INAFOOT, a suspendu ses matchs à Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier se sont exprimés sur cette problématique de l'organisation de la LINAFOOT. Vous les suivrez dans ce journal. Pour commencer, nous allons d'abord parler de nous, radio. Le monde célèbre en effet aujourd'hui vendredi 13 février la journée de la radio et le thème retenu cette année est « Radio et intelligence artificielle, l'IA est un outil et pas une voix ». Selon l'UNESCO, le thème souligne l'importance d'utiliser l'IA comme un soutien à la vérification des faits et à l'accessibilité sans pour autant remplacer la responsabilité éditoriale des journalistes. L'objectif est d'explorer comment l'intelligence artificielle peut transformer la production et la diffusion radiophonique tout en réaffirmant que le jugement humain, l'éthique et la créativité doivent rester au cœur du média. D'autres points sur ce message de l'UNESCO avec vous, Alain Hirung.
Pour l'UNESCO, l'intelligence artificielle n'est pas un simple défi à relever, mais une chance à saisir pour réinventer la radio avec prudence, en favorisant la créativité et en veillant à créer du lien. Elle nous encourage à être plus ambitieux et à nous dépasser, à faire bon usage du temps que les auditeurs nous accordent, à faire honneur à leur intelligence et à être à la hauteur de leurs attentes. Un usage réfléchi de l'IA peut aider la radio à prendre son essor en permettant plus de facilité et de fluidité, en laissant la technologie s'occuper des tâches routinières telles que la programmation, les pistes de voix, la mise à jour quotidienne des bulletins météorologiques ou sportifs, ou encore les tâches administratives. Les rédactions pourront se concentrer sur ce qui compte vraiment, informer, éduquer et divertir les auditeurs, affirme l'UNESCO. L'IA facilite la production des contenus de qualité en l'utilisant pour vérifier les informations et les sources, redécouvrir des trésors d'archives et collecter davantage des données factuelles tout en mettant l'humain au cœur des décisions. Toutes ces possibilités permettront de construire quelque chose de précieux qui est la confiance, souligne l'UNESCO.
L'actualité, c'est aussi cette date fixée par l'Angola, le 18 février 2026, donc mercredi prochain à 12h, c'est la date et l'heure proposée par le pays de Joao Lorenzo pour l'entrée en vigueur dans ces cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23, sous réserve d'une acceptation formelle des deux parties. Cette décision ressort d'une rencontre organisée lundi dernier à Luanda, réunissant notamment Joao Lorenzo, Faure Gnassingbé, Félix Tshisekedi, Olusegun Obasanjo. Le point avec Benjamin Mudumbi.
Suite à la rencontre qui s'est tenue lundi dernier à Luanda entre le président de la République d'Angola, João Manuel Lorenzo, le président du Togo, Faure Essozimna, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, Olusegun Obasanjo, et après consultation des parties concernées, la République d'Angola propose l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23 le 18 février prochain à midi, en attendant une prononciation publique d'acceptation de la proposition des dates, précise ce communiqué rendu public par la présidence de la République angolaise. L'initiative place désormais la responsabilité sur Kinshasa et la rébellion de l'AFC M23 appelée à officialiser leur position afin de permettre l'application effective de la trêve. Au-delà de l'arrêt des hostilités, la médiation angolaise s'inscrit dans une perspective politique plus large. concernant les débuts de la phase préparatoire du dialogue intercongolais qui se déroule à Luanda, nous l'annoncerons en temps voulu. Une indication qui laisse entrevoir, après la trêve espérée, l'ouverture d'un processus de discussion plus structuré, ajoute le même communiqué.
Puisque nous parlons sécurité, notez ce constat des acteurs de la protection de l'enfance au Nord Kivu à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'utilisation des enfants soldats célébrée hier 11 février. Selon eux, une dizaine de groupes armés, notamment les ADF, la FC-123 et d'autres groupes locaux, continuent de recruter des enfants à Beni Butembo et Lubero. Une cérémonie a été organisée à cette occasion par la section de la protection de l'enfant de la MONUSCO et elle s'est déroulée au quartier général de la mission onusienne à Beni, en présence notamment de quelques autorités locales. Martial Papimoukeba pour les détails.
L'ONG Enfants pour l'Avenir et le Développement EADEV indique que plus de 2000 enfants ont été recrutés par des groupes armés à Beni Butembo et Lubero en 2025. Son coordonnateur, Germain Lufungula, évoque des chiffres alarmants.
Le recrutement d'enfants, il se porte à bonne santé. Nos statistiques de fait d'année 2025 ont réalisé qu'il y a au moins 2054 enfants, parmi lesquels 423 filles exploitées, utilisées par les responsables des groupes armés. Nous avons l'ADEF, le M23, mais à côté de cela, il y a beaucoup de groupes armés nationaux. C'est vraiment un chiffre alarmant.
Anissé Kibwana, secrétaire administratif de la localité de Bahira Kanda Mavivi, dans les territoires de Beni, lance un appel aux groupes armés.
Les enfants, leur place n'est pas dans des groupes armés. Leur place, c'est dans des familles, c'est à l'école, pour qu'ils puissent garantir un avenir meilleur pour notre pays. Tous les chefs des groupes armés qui gardent encore nos enfants dans leurs groupes respectifs, qu'ils puissent libérer les enfants. Parce que garder ses enfants dans des groupes armés est un crime contre l'humanité.
La région de Beni Butembo et Lubero est touchée par l'insécurité depuis plus d'une décennie. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Nous ne quittons pas le Nord Kivu avec cette alerte de la société civile de Mangina, une commune rurale située à 30 km de la ville de Beni. Elle appelle les autorités militaires à prendre des mesures immédiates pour protéger la population locale et les zones agricoles. Cet appel intervient alors que les alertes communautaires signalent le mouvement des ADF dans la partie nord de Mangina, zone également agricole. Kakule Mwongozi, président de la société civile de Mangina, demande également à la population et aux agriculteurs de redoubler de vigilance. Il s'exprime au téléphone de Marc Marufimbo.
On venait d'apprendre, c'est lundi 9 février 2026, le mouvement de l'EDF qui a quitté le nord, où on a parlé de Kukutama, c'est le côté nord. IAP, RSKP a déclaré que cet ennemi avait déjà érigé un campement là-bas. Alors, quand on dit que cet ennemi a pris la direction du sud, on comprend Mangina fait partie des agglomérations et des champs qui se trouvent du côté sud. C'est pourquoi nous réitérons donc une vigilance très accentuée de la part de la population et des agriculteurs. À cette occasion, nous lançons un appel au service de sécurité, surtout au secteur opérationnel, le Sokola 1, de lancer les opérations conjointes FRDC-UPDF pour anticiper ces mouvements. Mais aussi, nous appelons donc la population à une dénonciation et alerte au service de sécurité.
Nous n'avons pas pu obtenir jusque-là la réaction du porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord des FARDC. L'accélération de la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, était au cœur d'une réunion stratégique tenue hier jeudi à Addis Abeba en Éthiopie. Cette rencontre a réuni le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku, et le secrétaire général de la ZLECAF, Wamkele Mene. C'est en marge du 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévu du 14 au 15 février sous le thème « Assurer la disponibilité de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. À propos de la zone de libre-échange, Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, explique dans cet extrait proposé par Grace Amzati.
Comme vous le savez, les chefs d'État tiennent, en marge de ces sommets, d'évaluer les niveaux de mise en œuvre de ces zones de libre-échange continentale africaine, qui est en fait la solution au développement du continent. Beaucoup de gens craignent que lorsqu'on va ouvrir les frontières, on va perdre suffisamment de recettes au niveau des douanes. Mais il a été question de pouvoir échanger mutuellement sur les bénéfices que nous allons obtenir de cette ZLECAF, parce que le libre-échange ne concerne pas tous les produits qui viennent de l'Asie, de l'Europe, des États-Unis. Le libre-échange concerne seulement les produits d'origine. Et donc, nous avons essayé un peu de voir comment est-ce que nous allons impliquer le ministère des Finances pour que dans tous les pays africains, les ministres des Finances puissent donner des instructions claires au niveau des douanes pour qu'on commence à appliquer la mesure qui avait été déjà prise par les chefs d'État, celle de commencer à faire la décote sur les taxes que nous devons commencer à délester. Nous devons nous délester de certaines taxes pour permettre que les produits africains puissent circuler librement. Parce que les études ont démontré que d'ici 2030, lorsqu'on mettra en œuvre totalement la zone de libre-échange continentale, notre PIB, c'est-à-dire les richesses africaines, vont augmenter de plusieurs milliards de dollars américains.
Un autre rendez-vous dans un tout autre domaine s'est tenu à Brazzaville. La ministre de l'Environnement, Marie Nyangendambo, insiste sur la bonne gestion des forêts, cela afin d'améliorer les conditions de vie des populations rurales en République démocratique du Congo. Elle a livré son point de vue au lendemain de la réunion ministérielle de la Commission climat du bassin du Congo et du Fond Bleu, tenue en début de semaine au Congo-Brazzaville. Elle affirme avoir porté la voix de la RDC, rappelant le statut du pays comme pilier de la lutte contre le réchauffement climatique. Ce compte-rendu est signé Blaise Ndongala Mayanda.
La ministre Marie Nyangé explique que la rencontre de Brazzaville a offert l'opportunité à chaque pays du bassin du Congo de préparer des projets bancables en vue d'obtenir des financements auprès des bailleurs. Elle estime que les pays de cette région ont tout intérêt à gérer durablement leurs forêts pour préserver l'équilibre climatique.
Nous devons préserver tout ceci à travers des projets qui ont réglé des problèmes qui se posent dans les écosystèmes dégradés à travers le reboisement, de manière à maintenir l'équilibre climatique. Je commande l'utilisation rationnelle des forêts, que chacun fasse un effort pour planter ne fût-ce qu'un arbre.
Ces membres du gouvernement souminois a également exhorté la population congolaise à intérioriser la culture des reboisements. Au cours des échanges de Brazzaville, Marie Nyangé indique avoir insisté sur la nécessité pour les continents africains de protéger et de structurer son propre marché carbone. Cette rencontre, élargie au ministre des Finances, visait à préparer la table ronde des bailleurs destinée au financement du plan d'investissement du Fonds Bleu. Elle constituait également une étape préparatoire majeure avant le sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements prévu à Nairobi à marge du sommet France-Afrique.
Une proposition de loi sur la santé mentale au cœur d'un atelier organisé hier à Kinshasa. Cette réunion a regroupé des professionnels de santé et autres professeurs d'université sur une initiative du réseau d'ONG d'action en santé mentale. L'objectif est de lutter contre le traitement inhumain que subissent les personnes atteintes de troubles mentaux. Une fois adoptée et promulguée, cette législation garantira la sécurité, le bien-être mental des Congolais, l'accès aux soins et la protection du droit des personnes atteintes de troubles mentaux. John Chibouaboua nous en dit plus.
Professeurs d'université, professionnels de santé, des avocats ainsi que plusieurs organisations de la société civile associent leurs forces afin de trouver un cadre légal pour la prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiques. Pour le médecin directeur du centre neuropsychopathologique CNPP, cette loi assurera le droit de personnes atteintes de troubles mentaux. Professeur Okitundu Daniel.
Si cette loi est promulguée, elle nous permettra d'organiser convenablement le service de soins de santé mentale, surtout pour les personnes affectées par les maladies mentales et surtout pour protéger leurs droits humains.
Pour sa part, le représentant de la ministre de l'ESU indique que le pays se développe aujourd'hui grâce à l'investissement lié au cerveau. Professeur Guy Bumoko.
À travers cette proposition de loi, nous faisons le choix stratégique de placer la santé mentale au cœur de la recherche scientifique. Les nations prospères, vous conviendrez avec moi, ne sont plus celles qui possèdent des richesses naturelles abondantes, mais plutôt celles qui investissent dans leur capital humain, et j'ai cité surtout les capitales cérébrales.
Notez enfin qu'après amendement des articles et du document final, cette proposition de loi sera présentée à l'Assemblée nationale pour son adoption.
Et puis sa découverte réalisée dans le Haut-Katanga, la police a démantelé mercredi une fabrique de boissons à forte dose d'alcool et impropre à la consommation à quelques kilomètres de Lubumbashi. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'opération Dobo. Je vous signale aussi que la police a interpellé des Indiens travaillant dans cette fabrique et qui séjournent illégalement en République démocratique du Congo. Le point avec Paula Munanga.
La police a découvert cette fabrique de whisky en petites bouteilles et en plastique dans une concession non autrement identifiée. Sur les lieux, la police a trouvé des produits qui entrent dans la fabrication de ces boissons dangereuses pour la santé. Ce sont notamment des bidons de 20 litres contenant l'acide hydrochlorique, des sacs de soude caustique, des sacs de sucre, ainsi que d'autres produits. Il y avait aussi une importante quantité de petites bouteilles contenant des boissons fortement alcoolisées, rangés soigneusement dans des cartons et des rouleaux d'étiquettes qui sont destinés à être placés sur les petites bouteilles de whisky. La police a interpellé 6 sujets indiens qui travaillaient dans cette fabrique. Ces personnes n'ont aucun document en leur possession. Pas de passeport ni de visa. Après leur audition, ces Indiens ont été conduits à la Direction générale des migrations du Haut-Katanga. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président sud-africain a annoncé hier le déploiement de l'armée dans la lutte contre le crime organisé. À l'origine, signale africanews.fr, les guerres entre gangs des trafiquants de drogue dans la région du Cap et aussi les attaques liées à l'exploitation minière illégale dans la province de Gauteng près de Johannesburg. Face au fléau, Ramaphosa promet la tolérance zéro. Au nombre de mesures promises par le président sud-africain figure également le recrutement de 5500 policiers et le renforcement des services de renseignement.
L'invité.
La Ligue nationale de football, l'INAFOOT, a suspendu ses matchs à Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. Des intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier jeudi se sont exprimés sur cette problématique de l'organisation de la LINAFOOT. On les écoute au micro de Jean-Marc Matwaki.
Alors, je me tourne directement du côté de Monsieur Delphin Kikuni, ancien vice-président de la LINAFOOT, analyste sportif. Quelle est justement votre analyse en rapport avec cette crise? On peut qualifier ça de crise parce que ça pose un sérieux problème.
Oui, c'est vraiment triste. C'est triste de voir que notre football, notre championnat qui a été compté parmi les 5 meilleurs championnats d'Afrique, en train de mourir de sa propre mort. Et c'est regrettable. Et on doit déplorer cela, on ne doit pas souhaiter que ça demeure. Nous devons jouer au football. On ne doit pas continuer de rêver de la cueillette que nous produit aujourd'hui notre équipe nationale, où vous avez des rêves de prouesse, des rêves d'être champion, et sans compter sur la natte et sur laquelle le football devrait d'abord s'asseoir, qui est notre championnat national. Qu'il se meure de cette manière-là, ça interpelle et ça doit interpeller tout le monde et à tous les niveaux. Au niveau des organisateurs du football, au niveau de ceux qui doivent amener la sécurité, et c'est l'État, et au niveau également de ceux qui viennent suivre le spectacle qui est produit par nos acteurs, que sont les supporters. Donc, à tous les niveaux, je pense qu'il faut s'interroger. On doit sûrement s'interroger pour savoir où nous allons. Où nous allons avec notre football. Pourquoi nous l'abandonnons? Pourquoi nous enterrons ce football? Cet football qui était attrayant et qui avait même des allures d'un football professionnel. Je me rappelle, à une belle époque, on alignait dans notre football des joueurs qui étaient titulaires. Et alors titulaires dans leurs équipes nationales A. Ces joueurs qui étaient titulaires dans leurs équipes nationales venaient jouer dans notre football. Tout simplement, ils étaient attirés par notre championnat.
Alors, monsieur Héritier Yindula Mukole, directeur des communications du Tout-Puissant Mazembe, gestionnaire du stade du TP Mazembe, qu'est-ce qui vous a motivé pour dénoncer cette situation? Est-ce qu'en termes de responsabilité, vous pensez que les clubs n'ont pas un rôle aussi à jouer par rapport à cette situation, cette crise qui prévaut en ces moments?
Je vais d'emblée parler d'abord de la décision du ministre des Sports pour dire que c'est une décision inopportune et populiste, surtout politique. Cette décision traduit la démission de l'État, de la République démocratique du Congo et surtout dans sa branche qui concerne les sports. Aujourd'hui, je suis très flatté de mon grand frère avec vous au studio, ancien vice-président de la Ligue nationale de football, qui a parlé de la démission de l'État. Aujourd'hui, analysons l'ordonnance 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des ministères. Et je vais parler des 14 attributions du ministère. Que quand vous analysez toutes ces 14 attributions, il y a une démission totale. Et la démission totale a pour conséquence des infrastructures en lambeaux, l'arrêt des activités quelque chose qui ne peut jamais se passer. Et dans les attributions, vous avez l'organisation et la promotion des rencontres au niveau national et international. C'est dans les attributions du ministre. Et si vous regardez ces attributions, nous avons un ministère de la justice. Et je vais vite ouvrir une parenthèse. Si vous voyez héritier aujourd'hui, allez toucher seulement les portails du palais de la nation ou tout comme du palais du peuple. Demain, il y a procès en flagrance. Alors que c'est une infrastructure de l'État. Les stades sont aussi des infrastructures de l'État qui ne sont pas prises en charge. On s'occupe aux infrastructures qui sont politiques. La démission, elle est totale de notre ministre. L'État congolais doit assumer qu'il a démissionné.
Monsieur Arsène Mpunga, vous en tant que chroniqueur sportif, quelle est l'analyse que vous faites par rapport à cette situation qui prévaut au niveau de la Ligue Foot où les matchs à Kinshasa sont suspendus jusqu'à nouvel ordre?
Vous savez, cette décision m'a surpris et me chagrine en même temps. Parce que j'ai comme l'impression que dans notre pays, on commet les mêmes erreurs chaque année et on n'en tire aucune leçon. On s'attend à des miracles en espérant que les mêmes actions produisent des résultats différents. La situation que nous déplorons, celle des violences dans les stades, ne date pas d'aujourd'hui. Elle remonte de très longtemps. Il y a eu des propositions et même des ateliers, des recommandations ont été formulées par des structures indépendantes aux instances qui gèrent le football. Mais jamais personne n'a pris au sérieux cette problématique et on a comme l'impression que ce qui préoccupe les dirigeants, qu'ils soient politiques au niveau du ministère ou encore au niveau de nos instances, que ce soit à la LINAFOOT ou à la FECOFAS, la gestion événementielle, la gestion des événements. Mais la construction du football lui-même ne les intéresse pas.
Merci Jean-Marc Matwaki pour ces interventions. Vous pouvez écouter l'intégralité du dialogue entre Congolais sur www.radiocapi.net et sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. C'est la fin de ce journal préparé par Lévin Bouingami, son nom par Dieudonné Nyangasa. Merci de l'attention que vous avez accordée. Bonne journée.